Radio Campus Tour, 99.5 FM.
Et bienvenue dans ce 29e numéro de C'est la faute à la
manette.
Ouais, super. J'espère que vous avez passé un bon réveillon déjà autour de la table. Ça allait?
Ouais, impeccable.
Ouais, j'espère que vous êtes gavés comme des oies. C'est ça, c'est le cas aussi.
Ouais, oui, exactement. Ouais,
impeccable. On espère aussi pour vous, chers auditeurs, que nos conseils d'achat vous ont permis de trouver des bons jeux au pied du sapin et pas le dernier FIFA, par exemple. Ça aurait été quand même assez embêtant après tous les efforts qu'on a déployés. Cette fois-ci, on va s'intéresser un peu à notre petite personne et on va tenter de vous initier à nos goûts personnels. Le problème, c'est que dans l'équipe, personne n'est jamais d'accord, donc on va un petit peu user de mauvaise foi et d'arguments fallacieux pour tenter de détruire un petit peu les goûts de nos adversaires.
Parce qu'en fait, on est tous les meilleurs, mais chacun d'entre nous.
Voilà, c'est ça. On aura aussi des news, des bons plans peut-être. Hein. Je crois qu'il y en a, Guillaume,
Bof,
bon, on va pas en faire
La préfète de Noël, donc souvent c'est toujours un peu plat.
Effectivement, donc on va faire la critique du film Assassin's Creed. Par contre, tu vas la faire et nous on va essayer de l'attaquer un petit peu. Il y aura également un quiz musical concocté par notre faiseuse de quiz Manon, qu'on remercie d'avance.
Merci Manon.
Voilà. Autour de la table, l'équipe habituelle, il pense que son avis est le meilleur car il est le patron de la PC Moutarde Race. C'est Tom. Bonjour Tom.
Salut, 1080p.
Comment ça va, Tom? Alors, ta résolution pour 2017?
1920 par 1080.
Merci, Tom. Bon, alors, comme vous voyez, Tom a pas l'air d'être trop là. J'ai essayé de l'imiter, mais.
En vain. Hein,
on pense à toi, Tom.
C'était criant de vérité, Tom. J'espère que
moi
tu apprécieras.
Moi et Guillaume, nous n'avons pas participé du tout, n'étions pas d'accord pour cette imitation.
Il pense que son avis est le meilleur car il est en top tendance sur tous les réseaux sociaux et qu'il peut vivre sans dormir. C'est Guillaume. Salut Guillaume.
Bonjour.
Quelle est ta bonne résolution pour 2017?
Ça serait simple de faire le 1080p comme Tom.
Ouais, mais c'est déjà fait.
J'en sais rien. Finir tous les jeux que j'ai achetés.
D'accord. Encore une résolution que tu ne tiendras jamais.
C'est compliqué en même temps.
C'est vrai que c'est compliqué. Et enfin, il pense que son avis est le meilleur, car sa longue barbe lui confère une sagesse infinie, ça et le foie gras végan. C'est Jules. Salut Jules.
Bonjour.
Bonjour Jules, maître Jules. Alors, comment ça va?
Ça va très bien.
Ça va. Ta bonne résolution pour 2017, est-ce que tu as quelque chose de prévu d'important?
Arriver à dormir 2 heures consécutivement, sans me réveiller.
Alors ça, ça me paraît assez fou.
Je pense qu'on appellera des scientifiques pour prouver le truc.
Je pense pas qu'on va y arriver, mais bonne chance en tout cas pour ta résolution 2017. On passe directement aux news, hein, puisque l'intro est terminée. Un petit jingle et c'est parti. Des news, il y en a quelques-unes. On va commencer par quelque chose de très simple. La démo de Gravity Rush 2 est disponible. J'ai pas encore eu le temps d'y jouer, mais ça semble sympa.
Oui,
elle est courte.
Elle est courte. Bah, le jeu de base aussi était court, donc peut-être que.
Ouais.
Bon, après, là, c'est quand même une version PS4, c'est plus une version PS Vita, donc...
C'est vrai. Qu'est-ce qui avait joué au premier?
Moi, j'avais fini. J'avais acheté une PS Vita, pratiquement. C'était, ça m'avait fait acheter une console, la console, quand même.
D'accord. Guillaume, t'avais testé?
J'ai vu de loin sans jamais y jouer réellement.
D'accord.
Mais j'ai vu, ouais, ça avait l'air sympa. Et ouais. Par contre, la version, le 2, là, il a l'air quand même vachement beau, esthétiquement et autant graphiquement.
Ouais, ils avaient fait d'ailleurs un remake du 1 sur PS4 que j'ai acheté, qui, du coup, tournait bien à 60 images par seconde.
Ouais, c'était, puis c'était une nouvelle licence, ouais. Un univers, c'était sympathique, quoi.
Et ouais. Elle a failli pas revenir, d'ailleurs, des enfers d'où elle était tombée à cause de la PS Vita, justement.
Ouais, bah oui.
C'est la meilleure console portable.
Je suis d'accord, mais tout le monde n'est pas d'accord. Une autre news, quelqu'un?
En parlant de démo, t'as la démo de Nier Automata.
Ah bon?
Prochain Nier, ouais, qui est disponible. Ouais,
très bien. Eh ben, continuez l'émission sans moi.
qui est disponible. J'ai pas pu la tester. D'accord. Parce que j'ai pas trop envie de la faire, en fait. J'ai pas envie de faire la démo parce que moi, je veux faire le jeu en entier.
Alors, la démo de la suite du meilleur jeu de tous les temps. Voilà. Hein, on
et
peut dire.
Les gens, les avis donc sont excellents. La démo est remplie de petits clins d'œil, de petits trucs intelligents. Ben vraiment, c'est une démo faite pour une démo.
D'accord.
C'est pas juste une démonstration.
Donc là, sur PS4, ouais, disponible.
Oui, c'est disponible.
Cool.
Et
cool,
en autre cool. démo, pour ceux qui ont un compte Steam, un PC, il y a la démo de Resident Evil 7 qui était sortie sur console, qui avait développé, qui est disponible, qui est gratuite, qui tourne extrêmement bien.
Pour une démo.
Oui, non mais
c'est pas Metal Gear. Hein.
Oui, voilà, c'est pas Metal Gear. Il s'appelait comment déjà? Le Metal Gear démo qu'on a eu payé en
Ground Zero.
Voilà, c'est pas
Grand
ça.
Turismo 5 Prologue aussi.
Donc c'est une démo avec plusieurs fins. Hein. C'est un beau travail de Capcom.
Et c'est un beau travail. Alors, l'histoire de cette démo, elle est un peu particulière. Hein. C'est que c'est une démo qui s'est construite dans le temps. Elle est sortie sur PS4 il y a 6 mois.
À l'E3, je crois. Secondes.
À l'E3, ouais,
ouais,
exactement.
À l'E3, ouais.
Et ils ont balancé une démo qui était juste un petit bout de niveau, un petit bout dans un manoir. Et au fur et à mesure des mises à jour, jusqu'à cette fameuse mise à jour, ça dévoilait des petits éléments en plus dans la maison. T'avais accès à d'autres pièces, à d'autres choses. Et là, t'as enfin le fin mot de l'histoire, entre parenthèses, hein, puisque ça te dit à suivre dans un jeu à 70 euros.
Alors, puis techniquement, la démo, elle tourne très bien. Ouais. Sur un PC, même un peu bas de gamme, ça tourne très bien. C'est très bien optimisé. Là, Capcom, ils sont en train de faire quelque chose de très bien.
Ça va justement avec la news du fait qu'il tournera officiellement. Ça a été dit qu'il tournera en 1080p 60 fps sur console. C'est rare, hein. C'est super rare.
C'est très rare. C'est très rare.
Hein. Parce qu'il a l'air quand même plutôt beau graphiquement. Hein.
Ouais, mais c'est.
Après, comme c'est des petits lieux, tu m'étonnes que. Enfin, tu regardes Until Dawn ou ces jeux-là, des moments où t'as pas beaucoup de trucs à afficher. Tu peux forcément faire des jeux plutôt jolis. Hein.
Après, je pense qu'il prend tout le meilleur des Resident Evil, c'est-à-dire des décors finalement un peu figés. Hein. On est d'accord.
On est dans les premiers. Hein,
on est dans des décors un peu figés, mais avec la vue interne façon Outlast, les derniers trucs.
Les jeux d'horreur qui fonctionnent.
Cartonné, exactement.
Ouais, ça fonctionne plus les jeux d'horreur TPS. Enfin. Mm.
Et sachant qu'on trouve dans les petits clins d'œil de Capcom avec il y a une herbe, il y a les munitions d'un pistolet, etc. Enfin, on voit qu'on est dans un Resident Evil.
Ouais.
On aura de l'action, etc. Il y a une trappe qui descend sous un manoir, ça nous rappelle des souvenirs de. Et tout est bien fait. Faites-la, la démo est gratuite, vous avez un ordi, lancez-le. Ça tourne sur pratiquement tous les ordis. Enfin,
de toute façon, le jeu sort dans un mois.
Le 17 janvier, même. Même pas un mois pour
l'autre. 3 semaines, quoi.
J'ai hâte. Franchement,
j'ai hâte, je pense. Je pense que j'irai.
Vite, ouais.
On en reparlera.
Alors, d'habitude, il n'y a rien.
On va en reparler, c'est sûr et certain.
Ce sera Day One pour moi, donc je vous en parlerai le plus vite possible, quoi qu'il arrive. Plus personne ne parle déjà de la VR, mince, mais qu'est-ce qui s'est passé?
C'est comme je te disais, enfin, oui et non, c'est-à-dire que là, il y a eu les sorties en même temps de Noël où il y a eu les jeux de PS4 VR qui n'étaient pas des jeux, on s'y attendait tous, de toute façon, c'est des jeux d'accessoires, donc des jeux à 20 balles pour juste tester une technologie. Mais là, j'ai vu que par exemple, il y a un nouveau constructeur qui est arrivé sur le marché de la VR et qui va proposer un casque 3K, donc ça veut dire 1080p multiplié par 3. Et qui sera beaucoup plus abordable, par exemple, qu'un HTC Vive ou qu'un Oculus Rift, mais avec une puissance, du coup, bien plus performante qu'un PSVR qui est juste en affichage 1080p.
D'accord.
Et donc, c'est des casques chinois, mais ça risque, du coup, commencer à baisser les prix. Parce
c'est ça,
vrai
puis
que,
de faire que la concurrence, que les grosses
marques... L'HTC Vive est très cher. Et d'ailleurs, en parlant de VR, Resident Evil 7 a, du coup, été bien confirmé pour la VR, parce que s'il arrive à tourner en 1080p 60fps sur la console, ça veut dire qu'en VR, il pourra tourner correctement.
Alors là, par contre, s'ils arrivent à faire une VR avec une maniabilité qui marche,
ça va être top.
Ça va être incroyable.
Si le jeu confirme, y
a pas besoin de grosse maniabilité.
Oui,
enfin.
Non, mais tu vois ce que je veux dire. S'ils arrivent à faire une maniabilité un peu immersive, etc., le jeu, ils vont en vendre des palettes entières de casques.
Regarde Alien Isolation, le tweak qui faisait que tu pouvais jouer en VR marchait bien. Tu vois, enfin.
Je vais m'acheter un casque, je reviens.
Et d'ailleurs, en parlant de ça, Alien Isolation, normalement, devra ressortir en VR.
Ok,
pour dire que la VR n'est pas encore morte.
Ça, en réalité virtuelle, pour ceux qui ne l'ont pas fait, c'est un des meilleurs survival horror.
Moi, je le finirai en VR.
En VR, à mon avis, c'est. Moi, je prends des couches, parce que là.
Mais ouais, je pense que pour l'instant, la VR, le seul marché, c'est.
Le survival horror.
Le survival et la course.
Alors, d'après vous, qu'est-ce qui manque à la VR pour décoller vraiment?
Le prix.
Le prix ouais.
Et
le
fait, par exemple, bon, sur PS4, il faut déjà la PS4 plus 400€ pour le PSVR. Et le PC, c'est faut un bon PC déjà qui fasse tourner quand même. Parce qu'au final, il faut se dire que le jeu doit tourner quand même sur deux écrans simultanés. Parce qu'il y a par exemple l'écran de la télé plus le casque. Donc c'est 1080p x2. Ça veut dire que ça quand même, demande quand même beaucoup de ressources. Quand on voit déjà par exemple que certaines consoles ont du mal à afficher un jeu normal en 1080p 60fps, on se dit, et pour un casque VR, il faut absolument du 60fps, sinon le gameplay n'est pas jouable en fait.
On est d'accord que le prix apporte les joueurs qui eux-mêmes apportent les éditeurs, qui eux-mêmes apportent les jeux.
Et il y a une autre chose aussi, c'est à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie, on nous sort toujours le panel de mini-jeux sortis à la va-vite. Et c'est comme quand il y a eu la Kinect ou la PlayStation,
Plus,
à chaque fois, il y a plein de constructeurs ou d'éditeurs qui se dépêchent de sortir des trucs qui sont des espèces de démos techniques un peu foireuses.
Il y en a des très bonnes par exemple, il y a le Batman qui est ressorti sur PSVR, qui est à ce qui paraît excellent.
Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est inondé de plein de petits trucs à prix fort, genre 30€. Ils sont des jeux de merde, quoi.
C'est
des très mauvais jeux.
Il faut pas que ce soit un accessoire, en fait. Il faut que ça vienne vraiment dans le jeu.
Comme tu dis tout à l'heure, Resident Evil 7, en VR, si ça tient les promesses, ça va être ils vont vendre des casques Sony, ils vont pas s'en rendre compte.
S'ils font un bundle PSVR plus Resident Evil, ce serait le bon plan.
J'avoue.
Serait excellent.
Alors, avant de passer aux autres news, on a quasiment plus que du Nintendo. Après, je vais vous parler d'un jeu qui n'est toujours pas sorti, c'est Beyond Good and Evil 2.
Il n'est toujours pas sorti.
C'est pas que du Nintendo, ça.
Non, mais c'est juste avant de passer aux news pour Nintendo. Beyond Good and Evil 2 n'est toujours pas sorti.
Pensons à lui.
Avant de passer à Nintendo, du coup, moi j'ai une autre news.
Je t'en prie.
C'est que hier, il y a une vidéo qui est sortie sur à quoi devait ressembler Until Dawn sur PS3. Je vous conseille de la regarder. Elle est sur YouTube. C'est 40 minutes de gameplay de Until Dawn. Ouais, 40 minutes.
Ah ouais.
C'est du gros boulot. Et du coup, ça nous montre une autre perception du jeu qui n'avait rien à voir avec ce qui est sorti. Déjà, le jeu était fait pour le PS Move et qui n'était pas du tout fait pour une jouabilité manette. C'était vu en première personne. Et en fait, l'idée, c'est que c'était limite un jeu fait pour jouer avec vos amis, parce qu'en fait, à chaque fois qu'il y avait un nouveau personnage, le jeu vous disait de passer la manette, en fait.
D'accord.
Et c'est pas mal. L'idée, c'est joli.
Oui, mais il y a beaucoup de celles du jeu qui n'y sont pas. Par exemple, quand tu ratais un QTE, tu recommençais.
Ah d'accord. Oui,
en fait, il fallait obligatoirement. Du coup, ça enlève tout le côté punitif du jeu, où fallait faire tes choix et que si tu le regrettais, c'est trop tard. Là, en fait, c'était vraiment, par exemple, le personnage t'attaque, il faut les juste esquiver, etc. Par contre, le jeu était pas très joli. Allez faire un tour.
C'est sur YouTube.
On mettra le lien sans problème. Until Dawn, on rappelle, c'est ce teen movie adapté en jeu vidéo.
C'est ça. Hein,
c'est un petit
teen movie, on va dire plutôt
slasher. Ouais. Oui. Ouais,
teen movie, c'est plus American Pie.
Avec des jeunes à l'intérieur qui se font massacrer.
Avant de passer à Nintendo, le mec qui retarde le plus. Dead Rising 4 est sorti et on s'en fout.
Ouais, très bien.
Et
merci.
C'était un mot de la part d'un fan de Dead Rising.
On va commencer avec les choses qui fâchent. La mini NES est toujours introuvable en magasin. Nintendo est incapable de faire des stocks.
Et surtout, les revendeurs de.
S'en donnent à cœur joie.
Et qui sont des gros.
Oh là 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 là. Ouais.
Putain, je censure tous mes mots parce que sinon on va être banni. Quoi. Non, c'est. Y a une politique qui est complètement. Et Nintendo, à un moment donné, ils vont faire comme pour la DS collector de Zelda Majora's Mask.
Ouais.
Qui était soi-disant introuvable, qui s'est retrouvé. Ils l'ont inondé le marché, maintenant, elle vaut moins cher presque qu'une 3DS normale, quoi. Donc, non, c'est une politique. Enfin, c'est pas trop de leur faute, c'est surtout les mecs, dès qu'elle sort dans un magasin, les mecs, ils en achètent 10, quoi.
En gros, il y a beaucoup de spéculateurs qui revendent très cher les consoles.
Alors que tu vois des Mega Drive partout.
C'est ça.
C'est un peu honteux, quoi. Mon Nintendo pourrait peut-être en faire plus, mais c'est les
autres. Le pire, c'est qu'ils sont désolés. Au début, de base, ils voulaient que tout le monde puisse avoir sa mini NES bas du sapin, mais.
Mais ils avaient pas prévu que des mecs allaient en acheter 5 à chaque fois, quoi. Tout ça pour les revendre.
Ça me rappelle
c'est même pas pour les revendre. C'est même pas pour les revendre 10€ plus.
Non, non. C'est 100€ de plus.
C'est
hein.
ça, c'est n'importe quoi.
Ouais, c'est aux alentours de 200€.
Si toi, tu m'écoutes, t'as acheté 3 NES pour pouvoir te faire du fric, écoute, il y a un mec derrière un micro qui te déteste. Voilà.
Donc, la mini NES va peut-être engendrer du coup une mini SNES. C'est dans les cartons et c'est sûr que ça va arriver. Bien sûr, vu le succès de la mini NES, c'est évident.
Le seul truc, c'est que j'espère qu'ils vont. C'est les jeux en fait. Voilà. C'est le catalogue de la Super NES.
Des jeux traduits aussi, enfin des jeux en français, c'est.
Non,
mais c'est un gros reproche que font quelques joueurs que les jeux soient qu'en anglais. Pourquoi pas faire ça? Et il y a beaucoup de gens qui disent qu'aussi c'est pas vraiment le même feeling que la manette de NES.
Ouais.
Donc essayer de faire une manette peut-être mieux faite et un câble plus long.
Ou si vous pouviez juste aussi faire un port de manette SNES ou de NES, tout simplement, ce serait aussi simple et ça leur coûterait pas grand chose en plus.
Non, ça coûterait pas.
Vraiment. Les deux soient possibles, tu vois.
Après, ouais, ce qui est cool, c'est que les manettes de NES, tu peux les brancher à ta Wiimote du coup.
Ouais,
ça c'est cool.
Ça c'est cool. Mais
non, puis il suffit d'une chose hein, pour qu'ils en vendent. Ils mettent Chrono Trigger et Final Fantasy VI avec des traductions françaises. Je crois qu'ils en vendent.
Tu mets Starwing et Mission
en permanence pendant un an, ils en vendent en permanence, quoi. C'est voilà. Non, s'ils veulent se faire de l'argent, Nintendo, ils savent très bien ce qu'ils doivent faire. Et il faut qu'ils le fassent.
Hein, effectivement. Nintendo reconduit la marque Eternal Darkness. C'est une très bonne chose, car c'est un des meilleurs survival horror que j'ai jamais joué, pense.
C'est une licence
mieux
originale.
Mieux que Resident Evil 4
Oui, sur certains points.
Ouais.
Sur certains points, il est vraiment meilleur.
Qui brise le quatrième mur, etc.
Qui brise souvent le quatrième mur.
Ah, mais c'est Deadpool.
C'est très très malin.
C'est à mi-chemin entre Metal Gear et.
Resident Evil.
Pas, pourtant,
plus Silent Hill que Resident Evil.
Et ça, c'est un jeu qui est sorti sur quoi déjà?
Sur GameCube uniquement.
Ah, c'est pour ça.
Il est jamais ressorti nulle part, ni sur console virtuelle, ni sur rien.
Tu joues une famille en fait sur plusieurs générations et plusieurs époques. Donc il y a la ROM, il y a notre époque actuelle, etc. Et tu suis une enquête. Une enquête. Une histoire paranormale qui toute la famille est liée. Et le jeu, en fait, à des moments, te faisait peur en te faisant croire que ta sauvegarde était corrompue, que l'écran de ta télé était en panne, etc.
Ah ouais, ça, c'est des superbes idées.
Ouais, non, c'est,
et ça marchait très bien pour
l'époque. Très, très brillant.
Ah
ouais, c'est très brillant.
Cool. D'accord.
Dernière news.
Du coup, je vais en parler parce que
c'est toi qui l'as mis, du coup.
Donc, d'après les dernières infos sur la Nintendo Switch, la console qui sortira en mars prochain, la Switch serait capable, du coup, de faire du. Quand elle est branchée sur la télé, faire du 1440p, c'est-à-dire du 1080p plus la moitié de 1080p. Donc, on va dire du 1,5K.
C'est un peu bâtard, mais ok, pourquoi pas.
Ouais, je sais pas pourquoi une telle résolution. Pourquoi
peut-être
pas
avec l'écran en fait. Le 4, ça se coule.
Non, parce que justement, après, quand tu passes en écran, c'est du 960p.
Ah oui, donc non, il n'y a pas de logique.
D'accord,
il n'y a pas de logique.
C'est peut-être pour que l'upscale vers de la 4K soit plus simple, je ne sais pas. Voilà, et du coup, il y a de plus en plus de rumeurs pour que Breath of the Wild. Le prochain Zelda sorte que sur Switch et que la version Wii U soit
passe à la trappe.
Ouais.
Alors,
je
pense que ça fera comme la version GameCube de Twilight Princess qui va en sortir 20 exemplaires dans le monde.
Il y en aura 3,
Il y en aura 3, donc je vais acheter les deux versions parce que je suis un bon gros pigeon. J'achèterai les deux versions et je prendrai les deux versions Wii U que je revendrai des milliers d'euros dans quelques mois, donc pas de souci. Si vous en cherchez une, j'en aurai une autre en réserve. Voilà. Ce sera tout pour les news. Du coup, on va passer directement à ta rubrique game. On va parler d'Assassin's Creed, le film. On va mettre le jingle du roi d'un.
Il n'a rien à voir, mais bon, allez. C'est parti.
Pas grave. Parce que ce jingle est trop bien.
Yo, je suis radam et ça m'empêche pas d'être un mec sympathique. J'ai des oursins dans les poches et quand faut payer, ça pique. Les Romains qui tendent la main au feu pour moi, c'est des sadiques. Je voudrais payer mes factures avec une baguette magique.
Voilà.
Alors, on peut aussi relier au Rouradin parce que je crois que tu n'as pas payé une de tes places.
Pour Assassin's Creed.
Oui.
Alors techniquement mais c'est pas par rapport à une offre, c'est par rapport à juste que j'y suis allé avec quelqu'un qui m'a payé la place. Ah non, j'ai même pas payé deux de mes places. La première on me l'a payé, la deuxième aussi.
Tu vois, j'avais raison.
Le jingle était bon.
J'ai encore rompu
était bon.
La game de la radio.
Alors vas-y, parle-nous d'Assassin's Creed le film.
Assassin's Creed le film, c'est un projet qui date de il y a plus de 6 ans de ça, c'est dès le succès du premier film qui fut quand même une révolution pour la Next Gen en tout cas. Et au début, le projet était juste que l'acteur Michael Fassbender voulait faire un film, enfin voulait jouer dans le film, et il n'y avait pas grand chose. Jusqu'à ce que le projet se remette en route il y a moins d'un an de ça, avec le réalisateur Justin Kurzel qui venait de passer au Festival de Cannes avec son adaptation du Macbeth de Shakespeare. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille pour un point de vue visuel, un peu comme Assassin's Creed. Mais sinon, après, c'est une adaptation très classique. Et du coup, le projet renaît de ses cendres début 2016, voire fin 2015. Et le film est sorti du coup le 21 décembre 2016. Belle référence au jeu, parce que tout se passe dans Assassin's Creed le 21 décembre, pour Assassin's Creed 3.
En plus.
Donc c'est une petite référence, je pense, qui a été accordée. Et du coup, le jeu n'a rien à voir en termes de scénario. Enfin, si, mais le film n'a rien à voir au jeu. Ouais. Parce qu'en fait, là où dans les Assassin's Creed, on suivait Desmond Miles, qui retournait dans la mémoire génétique de ses ancêtres, là, on y découvre Callum Lynch, interprété du coup par Michael Fassbender, qui du coup se fait exécuter, mais en fait non. Et oui, plot twist. Et du coup, il est récupéré par l'entreprise Abstergo Industries, qui lui dit qu'ils ont besoin de lui pour retrouver un fragment d'Éden, la pomme d'Éden. La boule de pétanque d'Éden, tout à fait. Et pour cela, ils vont utiliser ce qu'ils appellent comme machine l'Animus, qui est en fait une machine qui permet de retracer la mémoire génétique, c'est-à-dire la mémoire de ses ancêtres, et de revivre les événements passés. Et du coup, ils vont s'intéresser, du coup, avec sa mémoire génétique, à son ancêtre Aguilar, qui, pendant l'année
1492.
Ouais, 492, c'est ça, ouais. Et pour trouver cette pomme d'Éden, donc ça se passe pendant l'Inquisition espagnole. Et donc, on y suit Michael Fassbender, qui vit ses aventures dans le présent, mais qui joue aussi son ancêtre Aguilar dans le passé. On y voit aussi Marion Cotillard en méchante d'Abstergo avec son père qui est Jeremy Irons, que vous avez pu voir dans Batman vs Superman, qui faisait Alfred.
Dans Die Hard 3, le grand méchant de Die Hard 3.
Ouais, voilà. Et en autre personne du casting, vous avez le garde, le vigile qui a joué dans Inglourious Basterds, dans la scène d'entrée, c'est le papa de Shoshana, voilà, pour ceux qui connaissent un peu.
Ah oui, c'est pour oui. Ça, voilà. Ah putain, je l'avais même pas reconnu.
Et ben, c'est un acteur français, et c'est pour ça que je disais
oui,
que...
Ah mais oui, il est génial ce gars, ouais.
Bah voilà, et le doublage est très mauvais en fait, parce que c'est pas sa voix, alors que c'est un acteur français.
Je l'avais même pas reconnu, putain, d'accord.
Mais il est pas très connu en France, ouais, hein, ouais. Il a joué que dans des séries surtout, ou des films avec Lucchini, c'est de dire. Voilà, voilà. Et du coup, le film est un gros succès au box-office. Pas du tout. Oui. Le film a coûté 120 millions de dollars et pour l'instant, dans le monde entier, on a engendré 36 millions de dollars. La faute à quoi ? Dans un premier temps, la faute au bulldozer Star Wars, bien entendu. Hein.
C'est vrai.
Fallait pas s'y étonner.
Mal tombé, ouais.
Il est assez souvent ça pour les adaptations de jeux. Ça sort jamais au bon moment, à part Warcraft où ça allait. Et le film est ce qu'on pourrait qualifier de brouillon. Enfin, moi, c'est ce que je qualifierais. C'est-à-dire qu'on retrouve tous les éléments qu'on aurait aimé voir quand on est fan d'Assassin's Creed pour la méta-histoire. C'est-à-dire l'histoire qui se passe dans le présent, avec des guillemets. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont peut-être pas assez approfondies pour un nouveau public. C'est-à-dire que moi, qui par exemple suis un grand connaisseur d'Assassin's Creed, je sais à quoi sert tout. Je sais que moi, j'y suis allé avec des personnes qui ne connaissaient pas forcément et qui se sont senties quand même un peu perdues au début du film. Le film est très lent, il ne se passe pas grand-chose. Je pense que beaucoup de gens qui jouent Assassin's Creed aiment les phases du passé. Moi, ce n'est pas forcément mon cas. Enfin, si, j'y joue pour les phases du passé parce que c'est 90% du jeu quand même.
Ouais.
Mais moi, ça ne m'a pas dérangé qu'il y ait peu de phases dans le passé. Je sais que ça en a dérangé plus d'un et qu'il y en a qui voulaient juste des films qui se passent dans le passé. Moi, je trouve que ça nique tout le but d'Assassin's Creed, en fait.
Je te rejoins sur le fait que la méta-histoire, c'est ce qui est arrivé de meilleur à Assassin's Creed. Mais j'adorais les méta-histoires dans Assassin's
bah
Creed.
Bah oui,
et
moi, l'histoire de Desmond Miles, je la trouvais vachement intéressante. Je trouvais que le concept était super intéressant de faire une machine un peu comme on aurait pu revoir dans Matrix, même si ce n'est pas vraiment la même chose. Mais voilà, et avec tout ce postulat, on pouvait se dire qu'on pouvait s'attendre à un bon film de SF, mais le problème, c'est que je pense que c'est un film qui a été fait dans la rapidité, qui a été très brusque, qui du coup, c'est des défauts assez apparents, et qui finalement devient classique. C'est-à-dire que c'est un film, on pourrait voir le début d'une trilogie de livres jeunesse à la Hunger Games, avec le côté un peu révolution à la fin, le monde va changer, etc., parce que les gentils vont commencer à se révolter. Et c'est là où c'est dommage, parce qu'Assassin's Creed, c'est pas vraiment ça, même si c'est quand même un scénario assez manichéen de base. Mais là, j'ai trouvé que c'était du coup assez sabordé à ce niveau-là. J'espère, j'ai de moins en moins d'espoir pour une suite, même s'il y aurait pu y avoir peut-être amélioré le truc, maintenant que les bases sont posées.
À la base, Ubisoft, donc ils voulaient faire le film Assassin's Creed, un film Watch Dogs.
Ah, mais ça, c'est en cours de préparation.
Et après, faire un crossover, justement, un méta-univers à la Marvel, qui voulait mettre ça en place.
Et ça aurait été possible, c'est ça le truc.
Ça aurait été marrant en plus. Ça aurait été, voilà.
Depuis le début, je dis que Watch Dogs est relié à Assassin's Creed.
Bah, même dans le jeu, ils font des easter eggs, comme quoi, par exemple, le CTOS, qui est le méchant de Watch Dogs, et ben, c'est une succursale de Abstergo.
Ouais.
Donc, c'est vrai que même dans les jeux vidéo, on s'attendrait un jour qu'il y ait un crossover, ce serait stylé.
Ce serait top.
Mais là, voilà, le film rate peut-être un petit peu ce qu'il espérait faire avec ce film, c'est qu'il a voulu parler aux fans et en même temps ouvrir un nouveau public, et il n'a pas réussi à faire les deux, en fait.
Ils auraient dû cibler un seul public.
Ouais, mais les fans ne rapportent pas assez d'argent.
Et ah, quoique, les fans d'Assassin's Creed, ils sont quand même nombreux. Hein. C'est un jeu qui se vend par brouette. Hein.
C'est un
jeu grand, très grand public.
C'est un jeu très grand public. Donc, moi, je pense qu'ils auraient dû aller. Franchement, je l'ai vu aussi, un game, mais ils auraient dû aller à fond.
Après, le tout n'est pas noir. Dans le je trouve, après, c'est mon avis, une direction artistique assez folle. Je trouve que les couleurs, autant dans le présent et dans le passé, sont magnifiques.
Peut-être un peu trop de particules pour moi.
C'est ce qu'on m'a fait la reproche aussi. Ouais.
Mais après, c'est des goûts, mais je pense qu'il y a peut-être un peu trop de poussière.
Du coup, après,
j'avais envie de tousser.
Il y en a qui ont fait quelques analogies avec les jeux vidéo, avec le fait qu'il y a beaucoup de particules dans les jeux vidéo, il y a beaucoup de nuages. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup de nuages dans le film.
Voilà,
comme s'il y avait une espèce de zone non débloquée où tu ne pouvais pas
toucher. Ça marche dans les jeux vidéo parce que tu peux toi-même aller dedans, alors que dans un film, ça te fait un peu un brouillage.
J'ai entendu aussi une remarque assez intéressante sur les costumes des personnages. Par exemple, c'est le youtubeur Durandal qui disait ça par rapport à Marion Cotillard. Sa coiffure qui fait très jeu vidéo, c'est très rigolo parce qu'en fait elle a une coiffure tellement lisse qu'on a l'impression que c'est juste un amas de pixels, de polygones. Et c'est vrai que si on va dans ce genre de détails, c'est vrai que le film, en fait, il arrive à être une adaptation de jeu vidéo mais pas être un film en fait.
Un défaut malheureusement qu'on retrouve dans beaucoup d'adaptations
de jeux
vidéo.
C'est qu'en fait, c'est le gros problème avec le cinéma de jeux vidéo, c'est tout simplement que ce qui manque dans le cinéma après, c'est le côté immersif, le côté on est acteur de ce qu'on fait, et dans le film, en fait, on n'est pas acteur. Et du coup, c'est normal qu'on puisse s'ennuyer si on n'arrive pas à rajouter un élément qui fait que c'est différent.
C'est pour ça que t'as l'impression de voir quelqu'un, comme on disait tout à l'heure avec Julien, t'as l'impression de voir un let's play. Sans le côté fun du
Mais un très mauvais
joueur,
let's play, c'est-à-dire d'un mec qui débuterait dans...
Oui, puis qui jouait normalement.
Qui jouait normalement, le plus sérieux du monde. Et du coup,
Sans même le faire vraiment tryhard, speedrun, tout ça, où ça serait intéressant. Non, c'est juste un joueur lambda qui joue au jeu, enfin, qui joue au film. Et quand t'es spectateur sur un grand écran, ça passe un peu moins bien, je trouve.
Ouais, et le problème, c'est toujours la question que je me pose, c'est comment on pourrait faire mieux un meilleur film de jeu vidéo. Mais après, ça c'est
compliqué.
C'est un débat qui se fait.
Oui, c'est un débat qui est
par contre, moi, c'est la VF qui m'a dérangé vraiment.
Ouais.
Je trouve la VF.
Quelle idée d'aller
horrible.
Voir des films en VF.
Ouais, mais j'avais pas le choix.
Bouh.
J'avais pas le choix et j'ai trouvé la VF abominable. Et je trouve, alors ça c'est un ressenti personnel, je trouve que Marion Cotillard n'arrive pas à se doubler.
Non, mais ça, elle le sait toujours pas. Hein.
Je suis d'accord parce que je l'ai vu en VO une première fois et c'est vrai que la VF.
On est d'accord.
Je l'ai pas trouvé folle, mais c'est vrai que par contre, en VO, Michael Fassbender et elle, ils jouent super bien.
Ah, mais j'en doute pas. Mais alors, en VF, c'est.
Bah, je pense qu'elle s'en fout un peu.
Comment elle s'est débrouillée pour rater son propre
doublage. Il y a plein d'acteurs qui disaient ça, Christophe Lambert ou Jean Reno, qui étaient des acteurs internationaux qui savaient très bien se doubler. Même si on se voyait qu'il y avait un petit truc, mais on voyait qu'il se doublait, mais alors elle y arrive vraiment pas.
Je voudrais revenir aussi vite fait sur la bande-son que j'ai trouvé. Alors, c'est le frère de Justin Kurzel qui a fait la bande-son, et je trouve que les thèmes sont vraiment sympas. Enfin, il n'y a pas de thème marquant,
mais
la musique est vraiment immersive avec des gros tambours, etc.
C'est ça.
Et dernier détail, c'est y a un tout petit clin d'œil à un moment quand Callum Lynch rentre pour la première fois dans l'Animus. Juste derrière Marion Cotillard, on peut apercevoir un Animus 2.0. J'ai trouvé ça du coup super stylé parce que là où les gens du coup critiquaient le fait que c'était pas l'Animus du jeu, je pense que ça l'explique par le fait que le jeu se passe en 2012 et le film en 2016. Donc peut-être qu'en fait au final c'est une version améliorée de l'Animus et ça pourrait expliquer en fait pas mal de choses.
Qui a réussi à se péter quand même. Hein.
Donc, oui.
No spoil, hein, mais,
oui,
c'est pour. Oui. Je trouve que peut-être que c'est pour mieux synchroniser les jeunes. Enfin, c'est pas expliqué, mais.
Oui, non, mais je vois ton
pour
idée.
Pour un fan, on peut facilement faire des déductions, mais après, voilà. C'est ça le problème, c'est qu'on ne devrait pas avoir à faire des déductions comme ça, on devrait le comprendre facilement dans le film.
Par contre, au secours, hein, la pomme d'Eden,
Ah non, mais.
Qui ressemble à une boule de pétanque, hein, on déconne pas. Hein, c'est
alors
c'est...
que. Comme
avec un petit côté boule à disco.
Dans le merchandising, ils nous vendent quand même une pomme d'Eden comme dans les jeux, et là, on se retrouve avec une boule au but qu'on aurait pu trouver à Décathlon pour 20 balles.
c'est
mon mon pote à côté de moi, il me disait, oh, il manquait dans la boîte quand même la bouteille de pastis pour aller avec. J'étais là, genre, mais oui, totalement, enfin.
Ouais, tu regardes Assassin's Creed avec du pastis en mettant un disque de bienvenue chez les ch'tis à côté.
En fait, tu te dis, ah, mais je suis sur l'équipe 21, en fait, mais.
C'est sûr.
Assassin's Creed au camping.
C'était chaud, c'était super chaud. Ouais,
voilà, j'espère que il faut que les gens prennent plus de temps. En fait.
Après, c'est le premier studio du film, c'est le premier film du studio Ubisoft.
Si vous aimez Assassin's Creed, voilà. Allez quand même le voir.
Ah oui,
curiosité, parce que ça reste tout de même un.
Puis ça essaye d'agrandir un peu l'histoire du.
Et aussi petit détail, le scénariste du film. Alors, il a fait quelques films un peu remarquables. Je pense que c'est à cause de lui que des parties du film sont mauvaises. Je vais vous dire ce qu'il a fait, parce que je les ai notées.
Vas-y.
Il a fait... Alors, attendez, juste deux secondes. Oui, voilà. Le scénariste de Assassin's Creed a fait le scénario de Divergente 3. et du reboot du transporteur.
Ouais, bon, qui oui, d'accord, ok.
Donc, comme c'est d'habitude, on a le droit à la crème de la crème.
C'est un mec
que
de commande.
C'est
un mec de commande, en fait. C'est juste ça.
C'est, ouais.
C'est dommage parce que le réalisateur n'en est pas un.
Bah oui, c'est ça. Donc, et je pense que ça fait partie peut-être des défauts du film.
D'accord, bon.
Voilà.
Et bah, ce sera notre conclusion.
Donc, allez le voir par curiosité si vous êtes fan. Et si vous avez l'occasion, allez-y. Mais on peut pas vraiment vous le recommander si vous êtes pas plus fan que ça.
Voilà.
Il y a mieux à voir, je pense, au cinéma aujourd'hui. Il y a le Star Wars qui écrase tout.
Il y a mieux, il y a des meilleurs spectacles.
Même moi, je recommanderais Star Wars pour dire à quel point il était sympa. On va se faire une petite pause musicale, deux petites minutes, juste histoire de reprendre un peu nos esprits et de préparer la suite. Et on vous dit à tout de suite.
À tout de suite.
Déjà de retour pour le débat, le fameux débat, les jeux préférés de tous les temps des chroniqueurs. Alors on a décidé de répartir ça de manière un petit peu particulière. On va vous parler par genre et on va choisir certains genres. On avait fait plein de genres différents, mais on n'aura pas le temps de vous en parler comme d'habitude. Donc on va se concentrer sur les genres qui sont un petit peu essentiels aux jeux vidéo.
Sur nos pépites,
vraiment les grosses pépites de la mort.
D'ailleurs, on spoil un petit peu, la musique que vous entendez au fond, c'est celle du jeu vidéo Catherine. Voilà, qui va revenir dans 2-3 fois dans nos tops.
Qui est un excellent jeu. On va commencer avec la catégorie un petit peu fourre-tout, qui est action-aventure. Donc tout ce qui est action-aventure qui peut mélanger un petit peu... Non, on va faire action-aventure.
Qui mélange l'action et qui mélange l'aventure.
Voilà, ça fait beaucoup de choses, mais c'est un bon chasseur. Ouais. Bref, du coup, on va commencer par Guillaume. Puisque de toute façon c'est en rapport à ce que tu nous as dit là tout à l'heure.
Alors je peux comprendre que beaucoup de personnes ne seront pas d'accord avec moi dans cette pièce ou pas.
Ça commence.
Alors moi j'ai fait pas mal de jeux d'action aventure, je dois avouer, mais c'est un jeu de cœur plutôt, je pense, que j'ai choisi, c'est Assassin's Creed 2. Parce que Assassin's Creed 2, ça doit être le deuxième jeu que j'ai eu sur ma Xbox 360. Donc ma dernière console avant l'Xbox 360, c'était la Xbox première du nom. Et là, oui, et passer de ça à un jeu en next-gen à l'époque,
ouais.
Un jeu en HD qui a vraiment fait passer ces consoles-là à la HD, je trouve. Et j'ai adoré ce jeu, je l'ai fini à 100%, tous les succès, j'ai récupéré toutes les plumes comme un gros malade. Donc non, c'est pour moi, je pense, le jeu où j'ai passé beaucoup de temps et voilà.
Non, moi je l'ai bien aimé, donc...
Je vais éviter de t'attaquer sur l'action-aventure, on va être gentil, on va commencer gentiment.
Moi je suis gentil, moi j'ai bien aimé Assassin's Creed 2, voilà, c'était pas fou, je rejouerais peut-être pas autant que toi, mais voilà.
C'est comme manger un CBO, mais pas tout à fait frais.
Assassin's Creed 2, hein.
Ouais, c'est...
Bon, il est bien.
Après, il y a Assassin's Creed 3 qui a un CBO périmé depuis 20 jours. Éventuellement. Mais voilà, Assassin's Creed 2, c'est le CBO qu'on a fait en début de journée, qu'on mange en fin de journée, et qui est pas mal du tout.
C'est quand même, il a quand même réussi à résoudre quand même pas mal des défauts du 1. C'est là où en fait, c'est pour ça que j'ai pas
dit.
Il
a un très bon multijoueur.
Il a.
Le 2 ?
Oui. C'est sympa, c'est bien le 2 qui a un multijoueur.
Il n'y a pas de multijoueur.
D'ailleurs, il était excellent, voilà. Tellement il n'y en avait pas.
Voilà. Bon, je vais rentrer chez moi aussi.
Je rappelle que c'est quand même le débat de la mauvaise foi, hein, donc si mes arguments sont un peu Soit c'est tout
moi,
à
moi
fait...
j'avais bien aimé Assassin's Creed.
C'est,
voilà.
C'est tout à fait normal. Alors, qu'est-ce que tu as à nous présenter, Jules, en
action aventure? Moi, je, quel que soit le mélange, de toute façon, j'allais en parler de ce jeu, c'est The Suffering.
D'accord.
Qui est un jeu PC, Xbox, première génération et PS2.
D'accord.
C'est un jeu qui est de 2004.
Ouais.
De Surreal Software, donc une filière de Midway. Qui se souvient de Midway? Midway, c'était ceux qui faisaient Mortal Kombat, qui faisaient des jeux comme ça, qui étaient, voilà, qui étaient une boîte un petit peu imposante, quoi, qui avait le même nom qu'un petit gâteau. Et en fait, qui a coulé. Et donc, en fait, Suffering, c'est un jeu survival horror qui se passe dans une prison. On joue Torque, un condamné à mort qui a soi-disant, qui est condamné en tout cas pour le crime de sa femme et de ses deux enfants, et qui va se retrouver dans une prison confronté à une invasion de forces surnaturelles. Et donc, c'est un survival horror orienté action, plus à la Resident Evil 4, qui n'était pas sorti, mais plus à ce genre-là que d'un côté survival horror pur à la Silent Hill.
D'accord, voilà. Donc toi t'es du genre à prendre une Cronenbourg dans un bar à bière.
Ah mais moi ce jeu, donc c'est pour l'ambiance en fait. L'ambiance et l'histoire en fait.
D'accord.
C'est la maniabilité un peu en deçà, faut l'avouer, mais le jeu en fait, ça m'a bluffé du début jusqu'à la fin. L'histoire est très bien écrite. C'est écrit par Richard House III, donc c'est un auteur américain, qui j'ai pu discuter sur Twitter, merci la technologie, qui à la base qui était écrivain de films, de romans d'horreur, et qui c'était son premier jeu. Donc on sent vraiment qu'il y a une trame narrative. Donc voilà, c'est un jeu que je redéfendrai un jour dans la faute à la manette.
Ok, on en fera peut-être une spéciale éventuellement.
Et The Suffering, donc voilà.
Et alors, comment tu m'expliques que ce jeu soit inconnu? Si
oui,
tu l'aimes autant.
Oui,
alors,
s'il est si bien que ça.
C'est un jeu qui est sorti, qui n'a eu aucune publicité en fait, dans aucun magazine, qui est sorti vraiment en catimini.
Je vois là sur jeuxvideo.com, il a été noté 10 sur 20.
Ah bah oui, c'est tout. Vous êtes tous. C'est que des bandes d'incultes.
Et il y a un film, The Suffering.
Qui n'a rien à voir.
Qui. Ah ouais?
Oui.
En fait, ils ont eu honte d'adapter le jeu vidéo, donc ils l'ont quand même appelé The Suffering pour la blague et tout. Et ils se sont dit, on va faire un film un peu mauvais
donc,
pour rappeler un peu le jeu.
Il a une suite qui s'appelle The Suffering, Les liens qui nous unissent, qui est sorti aussi sur les mêmes supports. Voilà. Qui finit l'histoire.
Il n'a pas uni les joueurs, hein, parce qu'il s'est
non,
pas,
c'est
il
un,
s'est pas
c'est,
vendu.
C'est un jeu en fait, qui s'est pas vendu, qui est sorti en catimini. La majorité des magazines à l'époque ne le testaient pas. Moi, je l'ai découvert très très tard en fait. J'ai découvert en occasion, en brocante sur le truc. J'ai vu la jaquette, c'est un mec en prison dessiné qui sort. Je m'attendais à une espèce de truc kitsch et complètement con. Tu lis la jaquette derrière, ça a l'air de les démons sortis de l'enfer dans une prison. Mais c'est n'importe quoi et en fait. Tout est écrit en fait.
En fait, c'est le marketing qui a
le marketing. Non, mais le marketing est à chier. C'est la jaquette est moche.
T'attends à Dead Rising en fait, et au final, t'as un jeu sérieux, c'est ça?
C'est très sérieux. Il n'y a aucun second degré dans le jeu.
D'accord.
Quoi. Et ça veut dire qu'en fait, ce qui est drôle, c'est que le jeu, il y a comme dans beaucoup, il y a le petit carnet où il y a toutes les. Quand on rencontre un monstre et tout ça qui est développé, à façon certains RPG quoi. Et là, c'est pour un survival horror action, chaque monstre que vous allez rencontrer, il y a genre presque une demi-page d'explication ce que c'est, etc. quoi. Et le jeu est extrêmement
bien.
Et c'est un jeu aussi qui était très fort, un jeu action avec des choix. C'est-à-dire qu'au cours du jeu, vous allez rencontrer des personnages, policiers, autres criminels, etc. Et vous allez faire le choix soit de les aider, soit de les tuer, soit de les aider à un moment précis, etc. En fait, il y a trois fins différentes dans le jeu. Voilà.
D'accord.
Okay.
Donc pour moi, c'est un jeu, on en reparlerait, mais c'est le jeu pour moi d'une génération.
Il vaut un peu cher sur PS2.
Oui, bah c'est très
80
bien.
80 euros.
Au moins 4 ou
combien
80 euros sur PS2.
Ça va,
quoi, sérieux?
Ouais. J'en ai 5 ou 6 à la maison.
Je les ai vus à 1,50€ la dernière fois.
Ouais, oui, parce que les gens commencent à comprendre.
Ouais, c'est ça.
Alors.
Du coup, moi, mon jeu Action Aventure, vous le connaissez déjà, hein, c'est Zelda Majora's Mask. Évidemment, je reviendrai tout le temps et tant que je pourrai le placer, je le placerai. C'est le meilleur Zelda de tous les temps. Alors,
vous avez déjà fait un procès.
Ferdi est d'une mauvaise foi.
C'est
son jeu préféré de tous les temps.
C'est mon Zelda favori aussi.
C'est son Zelda favori.
Mais bon, je vais essayer d'être une mauvaise foi aussi. Oh, tu pourrais aimer un jeu un peu plus gay quand même.
Franchement, je suis désolé.
C'est pas un Zelda, on peut pas sauver la princesse Zelda, allez, arrête.
C'est des vieux jeux, hein, c'est nul.
Ouais, de toute façon, à côté de Call of Duty, hein, ça vaut plus rien.
C'est pas 1080p, je suis désolé, mais
c'est pas
nul,
60 FPS. Tom, je te représente.
Vous avez vu, même les arguments sont impossibles à trouver.
Non, mais
ce jeu est bien.
On avait déjà fait un procès Zelda, je pense, donc si vous voulez entendre ces arguments.
Oui, allez, écoutez notre émission spéciale.
Et puis j'avais largement gagné en plus, donc vous pourrez réécouter ça.
C'était Tom qui avait gagné.
Il y a pas de souci.
La mauvaise foi. Ah là. Ah, mais venez chez nous, on en a au kilo.
On devrait mettre des boss de mauvaise foi ici.
Mais en tout cas, nos deux jeux respirent la joie de vivre. Hein,
non, effectivement.
Bah, même moi, c'est pas très joyeux.
Ouais.
On va passer au genre FPS-TPS, parce que c'est à peu près les mêmes genres. Mm. On va commencer par toi, Ferdi.
Alors moi, en FPS, c'est... Qu'est-ce que j'avais mis? Attends.
T'as mis beaucoup de choses.
Non, en FPS, le premier Doom.
Le premier Doom.
Parce que Doom.
Doom dans ton lit.
Voilà, je rejoins Benzaï là-dessus.
Shot.
Voilà, je rejoins Benzaï, c'est Doom. Et le deuxième, c'est Bioshock. Doom pour
quelle
la...
originalité, ah, BioShock.
Ouais, aucune originalité. Bah, Doom parce que bah, le côté ultra-action, et BioShock parce que c'est le jeu, quand je l'ai lancé la première fois, je me suis dit, on peut faire ça. C'est-à-dire, on peut refaire ça. C'est... Je me suis retrouvé une claque que j'avais vue dans les jeux Super Nintendo, avec un nouvel univers, un truc, et je me suis dit, on peut refaire ça. Même si la maniabilité un peu a très mal vieilli, l'action c'est pas super, les phases de combat sont pas énormes, l'ambiance de ce jeu elle est tellement extraordinaire. Hein. C'est, voilà, BioShock 1... une perle parmi les perles.
Ok, ouais,
tout à fait.
Alors je vais passer à moi et après on va changer un petit peu,
ouais, temps,
ça. Du coup je vais vous parler de Resident Evil 4, un jeu que vous connaissez peut-être, dont je vous parle de temps en temps.
Mais c'est pas connu du tout.
Resident
ça.
Evil 4, bien sûr, c'est le quatrième.
Il est sur tous les supports.
Il est sur tous les supports existants.
C'est pas un pachinko ça.
C'est absolument hallucinant. Resident Evil 4, c'est le jeu qui a amené à peu près tout le jeu vidéo moderne, pour le meilleur comme le pire effectivement. C'est un jeu qui ne vieillit pas. C'est un jeu qui est toujours jouable maintenant. C'est un jeu qui est toujours aussi agréable à faire. C'est un jeu que j'ai fait 22 fois et je pense que je deviens fou.
Moi,
je
pense à force de le faire. Que tu manques un tantinet d'objectivité, mais
absolument pas.
De toute façon, je conseille aux éditeurs de faire les suites qui sont bien meilleures.
Je pense que tu iras en enfer pour avoir dit ça.
Ouais, mais par rapport à Resident Evil 6, Resident Evil 4 ne vaut rien.
Surtout quand t'es fan de girafes.
D'accord. Quelqu'un a des allumettes ou pas? De l'essence, des allumettes, c'est parti. Non, effectivement, dans Resident Evil 4, les girafes ne se font pas.
Et il faudrait que je fasse Resident Evil 4, écoute.
Eh bah écoute.
Bah, fais-le sur la version PC, je pense.
PC ou PS4,
ouais. Eh bah, JM, je vais t'amener dans la bonne voie, c'est-à-dire que j'ai la version PS4 et je te l'amènerai.
C'est la meilleure version, je pense que la PS4, c'est la meilleure, je crois.
C'est dingue, le mec, il a plein de jeux à faire, et je vois quand je vais sur PlayStation, Gorefeus est en train de jouer à Resident Evil 4. J'étais genre, mais t'as pas mieux à faire de ta vie que de jouer à ce jeu.
J'ai 250 jeux à faire, j'ai racheté Resident Evil 4 et je l'ai fait 3 fois d'affilée.
Moi, j'irai rien, parce qu'on va parler du jeu après que je refais encore. Donc.
Et il y a de la mauvaise foi.
Du coup, JM, je te l'amènerai, et comme ça, tu pourras le faire.
Non, mais faut vraiment que je le fasse, parce qu'on m'en dit du bien.
Et c'est la meilleure version. Sûr, c'est la version 60 FPS 1080p.
Bah, tu m'étonnes,
là,
ouais,
c'est top.
Oui.
C'est absolument top.
D'accord.
Donc, à moi, c'est à toi, du coup, vas-y.
Alors, bah, je vais dire comme Ferdi, BioShock. Parce que BioShock. En fait.
J'hésitais à le mettre aussi, hein, mais voilà.
Bah, oui, mais Resident Evil 4.
Resident Evil 4.
Je peux le mettre aussi, allez. Voilà, hop.
Allez.
Comme ça fera un first person. BioShock. Bah, parce que BioShock. Halo, parce que Halo. Parce que Halo, bah, je suis désolé, mais moi, ça a été une claque. Quand j'ai reçu ma première Xbox avec Midtown Madness 3 et Halo, bah, Halo Combat Evolved, j'y ai passé des heures. J'ai passé des heures multi avec mes potes. C'était le bon temps du multi-écran splitté avec des modes de jeu assez fous. Enfin, franchement, c'était génial. Et sinon, si je veux parler d'un jeu un peu plus multijoueur, ce serait Battlefield Bad Company 2. C'est plus pour le côté multijoueur.
Ok.
Où j'avais bien kiffé jouer en multi avec mes potes. Parce que le jeu était plutôt joli, les décors étaient destructibles, et c'était le début de la YouTube game à l'époque, et je regardais beaucoup de YouTubeurs Battlefield, et j'adorais le feeling du sniper, et franchement, ça a été... c'est peut-être grâce à lui que j'ai aimé les Battlefield en multijoueur, en fait.
D'accord,
voilà.
Mais on est d'accord, niveau solo, le 1 était vachement plus sympa.
Ah, bien sûr,
ouais,
mais
okay.
Moi, c'est vraiment pour la partie multijoueur que j'ai kiffé.
Très bien.
Voilà,
okay.
Je préfère le préciser.
Ça marche. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire votre jeu indé préféré. On va partir là-dessus.
Binding of Isaac. Ouais. Rebirth, normal, Afterbirth, extension comprise.
T'aimes bien les choses cheloues, toi.
Ah, bah j'y ai passé.
Il est vraiment sympa.
Dans notre colocation, on doit approcher nous trois des 1000 heures.
D'accord.
Voilà.
Ok.
C'est voilà.
Tout simplement.
Je crois que c'est un peu une maladie. J'ai fait découvrir toutes les personnes à qui je l'ai fait découvrir. Et la Afterbirth qui sort le 3 janvier, voilà une news. La dernière extension qui coûtera 6€ pour ceux qui ont déjà le jeu. Ça coûtera 8€.
Mais il
n'est
pas
9...
déjà sorti Afterbirth ?
Non, Afterbirth Plus.
Ah.
Donc c'est la version avec tous les modes disponibles. Enfin, c'est même pas la version avec les modes disponibles, c'est la version avec le kit de développement.
D'accord.
Offert. Donc ça veut dire qu'en fait, on fait ce qu'on veut.
Voilà.
D'ailleurs, donc c'est con que Tom ne soit pas là. On manque un peu de mauvaise foi sur ce débat, je trouve, du coup. Mais c'est lui qui amène toute la mauvaise foi.
Moi, Binding of Isaac.
Voilà. D'accord. Guillaume.
Je peux comprendre mon Binding of Isaac, j'ai adoré. Moi, ce serait Rogue Legacy, qui est un roguelike. Que j'adore. Je l'ai découvert une fois sur une émission de jeuxvideo.com qui passait le dimanche, qui était le défi de.
Le super défi. Hein.
Le super défi, ouais. Et il y avait, je crois, Karim Debbache qui devait y jouer. Et j'ai adoré le principe, le fait d'un roguelike, c'est-à-dire à chaque fois que tu meurs, de recommencer. Et j'ai adoré ce jeu, j'ai dû le finir 3-4 fois. Je suis à 60 heures de jeu dessus, j'ai tout débloqué et je prenais beaucoup de plaisir. Bon, là, j'ai arrêté un peu d'y jouer, mais c'est vrai que c'était un jeu que j'adorais relancer quand j'avais 20 minutes à perdre. Et ben, je me faisais un petit Rogue Legacy et ça passait super bien.
D'accord. Voilà. Enfin, je vous montre un petit jeu mobile qui s'appelle Reigns, d'ailleurs, qui est fait par Devolver Digital et qui est très très bien. Je vous montrerai tout à l'heure.
Ah bah, si c'est Devolver en même temps.
Devolver. Moi, j'en aurais deux parce que impossible de les départager. Fez, pour les raisons que tout le monde connaît.
Le chapeau sur la tête, c'est ça ?
Le chapeau sur la tête, ouais. Mon avatar depuis...
Moi, j'irais pour le réalisateur. Hein,
et pour le réalisateur film, aussi.
Qui est plein de bonnes fois, lui aussi.
Ouais, Phil Poisson, effectivement. Qui était...
Phil Fish.
Phil... et parce que lui, je peux pas non plus ne pas le citer, Hotline Miami, parce que j'y ai passé sûrement...
C'est vrai que
100...
c'est difficilement catalogable, d'ailleurs. Ouais.
C'est ça, 150 à 200, 250 heures. C'est un jeu dont je ne me lasserai jamais.
Avec une BO dantesque.
C'est ça, et je pense que j'en étais même au point de le speedrunner, c'est-à-dire à quel point j'aimais ce jeu. Je le finissais en moins d'une heure pendant un temps. Et ça,
c'est vrai qu'il est excellent ce jeu.
C'est Miami, ouais, c'est...
Là, je pense qu'on peut être.
Bien
tous...
que sur NES, on aurait pu l'avoir. C'est... Ça aurait été fabuleux.
Ça aurait été difficile à jouer par contre sur NES.
Ah ouais,
ouais, mais ça aurait été fabuleux.
Avec la croix et tout. Non, ouais, mais ça aurait été infernal.
Ouais, mais ça aurait été fabuleux. Ça aurait été le jeu que Nintendo aurait fait banni. Le premier jeu banni de l'histoire du jeu vidéo avant GTA.
Ça aurait été monstrueux, monstrueux. On va passer au jeu de plateforme, parce que j'ai envie et parce que je sais que Guillaume va nous dire que c'est Mr. Nuts.
Allez, chronique suivante.
Chronique suivante.
Je suis démasqué.
T'es démasqué. Alors, Mr. Nuts, explique-nous une dernière fois pourquoi.
Parce que Monsieur Nuts, c'est le jeu de mon enfance, c'est parce que c'est une ode au réchauffement climatique. Comme l'a dit Leonardo DiCaprio quand il a reçu son Oscar cette année, le réchauffement climatique, c'est le combat du 21e siècle. Et du coup, pour cela, jouez à Monsieur Nuts, comme ça on aura un Monsieur Nuts 2. Voilà.
Alors moi, ce sera Sonic 2, parce que c'est le premier jeu de ma vie. Je crois que j'ai fini entièrement d'une traite, puisqu'il n'y avait pas de sauvegarde de toute façon à l'époque. Et c'était aussi le côté fou de mon enfance. C'est-à-dire quand tu arrives devant Metal Sonic à l'époque, ouais. Et tu as le cœur qui bat super vite parce qu'il te reste une vie. Et voilà, c'est
on dirait moi devant Bloodborne.
Ouais, mais c'est ça, c'est l'excitation, mais de l'époque. C'est surtout, une fois que tu mourais, bah, tu recommençais tout. Voilà, c'était
on avait quand même beaucoup plus de sensations quand on jouait à l'époque. Avec les sauvegardes en moins, la difficulté, on prenait plus de plaisir.
Je suis d'accord. Ferdi, du coup, c'était alors... Mon Petit Poney. C'est ça ?
C'est Super Meat Boy, pareil. Super Meat Boy. Les mêmes studios que Binding of Isaac. Ah, parce que c'est le dernier gros jeu de plateforme que j'ai joué. Nouveau. Sinon, comme tu disais, il y en a un autre que je mettrais, c'est Aladdin sur Master System. Jeu de plateforme que je trouve très beau, très cool.
Et Master System,
il est bien.
Il est bien et c'est le premier jeu que j'ai fini.
Et il est vraiment cool.
C'est lequel celui-là ?
Tu l'as jamais fait ?
Il se rapproche de la version un peu Mega Drive avec des niveaux en moins.
D'accord. Parce que moi,
beaucoup
j'ai
de niveaux en moins.
Parce que moi j'ai une version Game Gear qui est toute pourrie. C'est-à-dire, c'est un runner avec Aladdin.
Non. Là, c'est
je te conseille, moi je l'ai vu tourner, j'y ai joué un tout petit peu.
Ouais.
C'est super.
Je savais même pas qu'il y avait une version Master System.
C'est super. Franchement, je m'attendais pas que ce soit aussi.
Non, c'est pas la version Mega Drive, c'est plus la version Super Nintendo.
Ouais.
Voilà. C'est plus la version Super Nintendo avec des niveaux un peu moins, bien sûr, parce que faut que ça tienne sur la carte.
Et visuellement, c'est super beau.
Musicalement, c'est génial. Et c'est
dur.
Et c'est très très dur. Et c'est les premiers jeux que j'avais fini, voilà. Donc, comme toi, tu vois, c'est le jeu du cœur.
C'est le prochain jeu que tu dois acheter, voilà.
Ah bah, c'est l'excitation totale, là, du coup.
Aladdin sur Master System.
Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous voulez faire comme genre?
Bah, on fait RPG.
RPG, allez. Ouh. RPG, mais global.
Japonais, ouais. Américain.
Japonais, américain.
On les tous, quoi. Ouais,
c'est ça.
On va commencer par Guillaume.
Alors, en RPG américain, je dirais Borderlands.
Américain ou Jap, hein, oui. Les deux mélangés.
Alors, américain Borderlands.
D'accord.
Japonais, vu que j'en ai pas fait assez, je dirais Bloodborne. Un peu par défaut, parce que bah, j'ai bien kiffé.
Oui, c'est vrai, c'est japonais, du coup. C'est vrai, c'est vrai.
Il a le droit, il a le droit.
Et c'est la première fois que je finis un jeu From Software, donc je suis vraiment satisfait.
Oui, non, mais. On applaudit Guillaume.
Just clap.
Voilà.
Sinon, en plus, en modèle américain, ouais, Borderlands, The Witcher 3. Et en. Est-ce que FF Tactics peut rentrer là-dedans?
Jap, oui.
Ouais. Bah alors FF Tactics sur PS1.
D'accord, très bien. À toi Ferdi, on va te.
En Jap, Final Fantasy V et Final Fantasy VII. Parce que Final Fantasy V et Final Fantasy VII.
Parce que l'originalité.
Voilà. Et Final Fantasy VII, Final Fantasy VII, Final Fantasy VII. Je dédicace à Dylan.
Comment t'es un cliché.
Dylan qui le finit aujourd'hui. Il l'a relancé il y a deux jours. Il l'a fini pour la troisième ou quatrième fois de l'année depuis 10 ans.
D'accord.
Voilà. Et après, en américain, vite fait, Fallout New Vegas. Parce que c'est le meilleur Fallout après le 2 et c'est le meilleur en 3D.
Non, c'est le 4. Nous dirait Tom.
Et un RPG que je vais parler vite fait, c'est Vampire la Mascarade Bloodline. Donc c'est un jeu qui est disponible sur PC, qui est tiré d'un jeu de rôle qui s'appelle Vampire la Mascarade, qui est un jeu de rôle papier. Et c'est un jeu qui est exceptionnel. Voilà.
C'est des vampires bourgeois et tout, ils font des petites mascarades.
Bon,
Pareil, je vais
sucer ton sang, mais de manière très, très élégante.
J'essaierai d'en reparler dans l'émission. Donc c'est
du sang sans gluten.
Voilà. Du sang sans gluten.
C'est un jeu avec... je sais pas combien de fins, 7 fins différentes, etc. Voilà. Les écoutez pas. De toute façon, moi je suis habitué. Donc, non, voilà.
Vous aimez ma tarte au sang et au quinoa.
Disponible sur Steam. Alors, si tu m'écoutes, toi, cher auditeur, si tu as Steam, il est en promotion.
Film écrayon.
Il doit être à 4€.
D'accord.
C'est rien.
Oh non, de l'ail au gluten.
Non, mais ça m'intéresse, faudra que je regarde.
Oui, moi aussi.
Vampire la Mascarade Bloodline. C'est un des meilleurs RPG que j'ai fait.
Je trouve que le nom est tellement rigolo.
C'est tellement rigolo, ouais.
Vampire the Masquerade Bloodline.
Alors. Alors moi je vais pas faire d'originalité, effectivement FF7 pour le RPG Jav, ça on est d'accord, ok. Par contre je vais me faire insulter pour le RPG américain, ce sera Oblivion parce que Skyrim c'est de la merde.
C'est Oblivion est meilleur que Skyrim.
Ah merci.
Et Morrowind est meilleur qu'Oblivion.
Oui, non, non.
Après
Elder Scrolls Arena, le 2 est meilleur qu'Oblivion.
Oblivion mériterait un petit remake, franchement.
Ouais, trop Oblivion cool. Était bien meilleur que Skyrim.
Ah oui, oui, oui. Enfin, c'est, faut aimer l'ambiance. Mais moi, je préfère l'ambiance d'Oblivion.
Ah, vous êtes les premiers à me valider, justement.
Ah oui, non, pas de mauvaise foi. Skyrim est un bon jeu, mais je préfère l'ambiance d'Oblivion.
J'ai arrêté Skyrim au bout de 4 heures. Honnêtement, je l'avoue, aujourd'hui, j'ai arrêté Skyrim.
C'est parce que je suis devenu un vampire bourgeois.
On vient de perdre les.
Ça m'a gonflé.
On vient de perdre les 6 auditeurs qui nous restaient.
C'est ça. Non, j'ai détesté Skyrim. C'est une infâme.
On est deux dans la pièce. Arrête.
C'est une
oh là, ils doivent pas aimer Bob Lennon.
Un jeu coup de cœur qui ne peut pas être classé. Qu'est-ce que vous...
Catherine. On a déjà fait l'émission.
On a déjà fait l'émission sur Catherine entière. Ouais,
et pas là. Voilà. Et un autre jeu, Azuras Wrath.
Oui. Azuras Wrath, disons que c'est une simulation de QTE où on fait des QTE.
J'ai eu peur.
Mais si les autres jeux de QTE c'était appuyer sur des boutons, là on est Sangoku.
On est Sangoku, effectivement.
Sangoku et Kratos mélangés, voilà, ouais, à peu près. Niveau super puissance du personnage.
Niveau
voilà.
Vénère, on est sur Kratos. Niveau puissance, on est sur Sangoku.
Voilà, c'est le genre épique Capcom. Rien qu'en appuyant sur triangle, j'ai jamais senti ça. Voilà.
JM.
Je suis en train de réfléchir et je ne saurais pas dire.
Réfléchis,
Catherine bien, ouais, Catherine je suis bien. D'accord. Je ne saurais pas dire dans un jeu non catégorisé, je ne sais pas.
D'accord. Je vous reparlais de Deadly Premonition parce qu'il faut quand même remettre ce jeu en avant.
Ouais,
il faut dire que cet auteur est un génie, que ce jeu c'est du génie.
C'est un survival horror bizarroïde. Voilà.
Effectivement.
Mais on en reparlera. C'est des jeux vous a cité beaucoup de jeux qu'on va sûrement remettre dans
des. Voilà. C'est un petit peu notre.
Mais c'est des coups de cœur.
C'est un peu notre playlist de l'année à venir sur les jeux dont on va parler. Donc voilà. J'espère que vous
si vous avez la curiosité, chers auditeurs, essayez de recopier les noms. Regardez, googlez-les un petit peu.
Ouais.
Ne vous arrêtez pas aux notes.
Je vous ferai une liste entière de tout ce qu'on a dit pendant l'émission. Il n'y a pas de
souci. Et nous arrêtez pas. Et croyez-nous, ne nous arrêtez pas aux notes des gros sites.
Voilà.
Vous allez voir, c'est des. Vous allez voir des petites choses nouvelles.
Du coup, on va s'arrêter là, parce que je crois qu'on va faire le quiz.
On en discutera peut-être une autre fois avec Tom.
Ouais, quand on aura plus
avec
de
plus
temps.
De mauvaise foi.
Et on fera une émission encore plus punchy que ça.
Quiz.
Un petit jingle de quiz.
Oui, mais justement, j'avais préparé le quiz et du coup, quiz. Il faut que j'aille le chercher en attendant de me blesser beaucoup.
Quiz. Ah, c'est un tropé.
Sinon, tu joues à quoi en soi? Non, c'est bon. Ok. Alors sérieux, tu joues à quoi en ce moment?
Là, pas grand chose, j'ai plus vraiment le temps. Je joue aux cartes Magic en fait. Voilà, c'est plus du tout le jeu vidéo quoi. Non, toujours à Chasse de Danse.
À quoi?
À Chasse de Danse?
Ah ouais.
Ah oui.
Oh là 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 là!
David Lafarge à Tour, bientôt.
Alors c'est parti pour un quiz un peu spécial. Cette fois on va pas mettre de musique de fond vu que c'est un quiz musical. Ferdi va compter les points parce qu'il a un stylo et une feuille.
Tu connais les réponses toi?
Ça, c'est trop... Oui, je connais les réponses.
D'accord,
c'est
donc on est que deux à jouer.
Vous êtes que deux à jouer cette fois-ci, donc ce sera un quiz musical. Donc l'idée c'est que ce sont des génériques de fin de jeu, hein. Peut-être des choses qu'on n'écoute pas souvent. Il faudra deviner de quel jeu il est tiré. Donc quand tu veux, c'est parti pour le premier. Pour deux points, c'est parti, je vous
3,
laisse
3, 2, 1. Question 1.
Et vous levez la main et c'est moi qui donne la parole, bien sûr. Alors ça va se lancer, ça met quelques secondes. Ça va mettre quelques secondes, c'est un petit peu long.
Franchement.
Perdi.
Portal.
Oui, et on va le laisser quelques secondes quand même pour le...
Ah oui, bah oui.
C'est GLaDOS.
Pour le...
Putain, et moi j'aurais eu besoin de plus de temps.
Donc c'est effectivement une des chansons les plus...
Je l'avais en MP3 sur mon baladeur.
C'est génial.
C'est pour ça, triche.
Ah ouais, j'ai triché totalement.
Pour le mettre au bûcher. Allez.
Question 2 pour 2 points.
Allez, c'est parti.
C'est un jeu Nintendo.
Zelda.
Non, dans quel jeu Nintendo les gens parlent-ils en yaourt comme ça?
Animal Crossing.
Oui, effectivement.
Et j'y pensais au début, je me suis dit, mais non, ça ressemble pas.
Si, si, c'est effectivement une des chansons de Keke, voilà, qui est le générique de fin.
C'est juste que j'avais le perso en tête, mais j'arrivais plus à le lier à l'univers, en fait.
Ça te fait donc 2 points.
Je vais d'ouvrir ma bouche. Allez.
Allez, troisième pour 2 points.
C'est parti. Ah, Rayman.
Lequel?
Rayman, les... Origins.
Oui, très bien. Oui. 2 points pour toi, Guillaume. C'est bien ça. Rayman Origins.
Laisse un peu, laisse un...
On va le laisser un peu, on a le temps, on a le temps.
Ouais. Ça, c'est quand même, il nous a choisi des bons jeux quand même. Donc ça va, c'est des chansons qu'on a pu écouter.
C'est un excellent jeu, ça.
Ah, c'est un excellent jeu. On fera peut-être une spéciale Rayman d'ailleurs.
Ouais. Ah, oui.
Legend Origins, je pense que c'est une très bonne idée.
Oui.
Même les premières. Même dans les prochains.
Même les lapins crétins.
Non, ouais. Ça va aller.
Merde.
On va passer à la quatrième pour 3 points.
Allez. Je lance la carte.
Super Meat Boy.
Oui, c'était une
évidence. Super Meat Boy.
Ah, c'est...
Ça, tout le monde l'a retenu. La prochaine est un petit peu plus difficile. Elle est sur 3 points et il y aura un petit peu de parole avant. Vous avez reconnu? Non.
Ouais, le vent, là.
Train Simulator 3.
Train Simulator.
Ouf.
Ouf. Ça, c'est pas évident. I need that back.
No late charges, I hope. Est-ce que c'est un vieux jeu?
Pas récent en tout cas.
Ça répond pas du tout.
Je dirais 2005-2006.
Sonic, non.
We should be fine for now. But I'm sure they'll be back. On laisse tant que personne n'a trouvé, on va le laisser.
Est-ce que ce sera un RPG?
Non. Vous ne connaissez que ça, mais...
Demon's Souls, non?
Ah non. Je vois...
Oh, Devil May Cry.
Oui, mais putain, lequel?
C'est le...
Vite, Guillaume, tu peux encore gagner.
C'est le 2?
Non.
DMC 3?
Oui.
Putain, parce que c'était Devil May Cry. Non, oui. Ah, putain, c'était chaud.
Ce sera pour Guillaume.
Ouais.
Julien n'aurait jamais choisi un DMC 2.
Ouais. C'était la fin du 3.
Il n'aurait jamais pu.
Alors, pour 3 points, c'était une question. La prochaine, c'est une question pour nos amis PCistes.
Oh.
Ferdi?
C'est. Ah, j'ai un doute. C'est Day of the Tentacles.
Oui, c'est ça, c'est Day of the Tentacles, effectivement.
J'ai eu très très peur.
J'aurais jamais trouvé.
Question 7 pour 4 points.
Allez, je lance.
Ah. Bonne chance pour trouver comme ça. Dès le début.
Ah,
ah si, là. Ah, tu l'as.
Ah, putain, ce jeu là. Ah. Bah, c'est pas Sonic and Sega All-Star Racing, c'est le jeu de lequel il est tiré. Le personnage de Sega, là, non? C'est pas ce personnage de Sega?
Tu vas voir, quand la musique va changer, vous allez comprendre.
Je l'ai plus, moi.
Non? C'est un jeu bizarre avec un prince qui vient du cosmos. Dans lequel tu fais rouler une boule.
Oh, c'est... Katamari?
Oui, c'est Katamari!
Katamari!
Oh, putain, j'aurais pas retrouvé, merci de la.
Allez, question 8 pour 4 points. C'est un des meilleurs génériques de tous les temps.
Le
Guillaume?
Guillaume.
The Last of Us?
Non, presque.
La guitare sèche me faisait penser un peu.
Il y a de l'esprit. Mais c'est plus vieux que ça, 2006 environ.
C'est un Silent Hill?
Ça aurait pu, mais non.
Non.
Brutal Legend?
Non, c'est un jeu qui a eu son 3ème épisode sur Xbox 360 et PS3 après des années d'absence. D'ailleurs, il est devenu chauve au passage.
Ah, Max Payne.
Oui,
bien joué.
3.
Là, c'était le 2 pour le coup, mais
ouais, c'est Max Payne.
Et c'est excellent comme générique.
Oui, oui.
Je me rappelais pas du tout.
Question numéro 9, attention, c'est rapide. 5 points.
Ah, DuckTales.
Lequel?
Les Remasters.
Oui. 5 points.
Et là, elle est ressortie sur mobile.
Et la dernière pour 5 points.
Ah,
C'est un jeu dont on a longtemps attendu la suite.
Elle est venue la suite ?
Oui, il n'y a pas longtemps. Mais c'est pas vraiment une suite en fait, parce que c'est plus spirituel.
C'est Ico.
C'est Ico, effectivement, 5 points supplémentaires. Et je pense que Ferdi a gagné. Hein.
Oui, oui. Plat de couture.
Voilà, j'espère que ça vous a plu.
Excellent. Très, beaucoup plus compliqué que d'habitude.
Ouais, mais merci Manon.
Bon, bah voilà, on lui fera passer le message. Ouais. Du coup, merci de nous avoir écoutés. On vous dit à la prochaine fois. On va penser à Rayman, on va penser à plein d'autres choses. On va essayer.
On a de... énormément de choses à
on
vous dire
encore.
Ouais.
On
aura bientôt, la Japan Tour en plus.
La Japan Tour. Et on vous fera une spéciale quiz aussi, entièrement des quiz. Tout le monde fera des quiz. D'ailleurs, ça va être super bien. Voilà. Et pour tout ce qui est cadeau à gagner, on va essayer de s'arranger avec le Meldon. Hein. Voilà, on va essayer d'arranger un truc assez intéressant. Donc, on vous en reparle dès qu'on
a
des infos.
On vous dit à bientôt. On vous laisse avec l'émission de jazz.
Et vous allez écouter du jazz. Vous allez vous éclater avec du jazz. Faites des bisous à tout le monde. Salut.
Bonne fête de fin d'année et en 2017.
À 2017. Ciao.
Ciao.